J'avais une pensée tout à l'heure qu'il y a des personnes qui peuvent se trouver ce matin dans un mélange de lumière et de ténèbres. De lumière et de ténèbres, ils font un pas en avant, ils sont dans la lumière, ils font un pas en arrière, ils sont de nouveau dans les ténèbres. Comme s'il y avait une hésitation qui est là, d'ordre spirituel dans des vies, ce matin. Et Dieu veut dire à ces personnes, osez avancer d'un pas, et le Seigneur vous aidera à faire les suivants. Osez rentrer dans la lumière, ne restez pas dans une sorte de pénombre. Vous n'avez pas à vous cacher. Si vous tentez de vous cacher, le Seigneur vous voit néanmoins, alors. Vous voulez vous cacher des hommes ? Vous voulez cacher de vos proches, vous voulez vous cacher de vos collègues, vous voulez vous cacher je ne sais de qui. Avancez. Pourquoi avoir peur de dire ce que vous êtes? Pourquoi avoir peur de dire que vous appartenez à Christ? Pourquoi avoir peur? C'est le Seigneur qui vous honore. Et à travers l'honneur que le Seigneur peut faire dans votre vie, vous apporter dans votre vie, le monde va voir qui vous êtes. Qui vous êtes? Un élément dans le royaume de Dieu. Même peut-être un simple clou pour tenir une charpente. Et vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans la main de Dieu. Et vous n'avez pas à faire des pas en avant, des pas en arrière. Ce n'est pas une danse, c'est une marche. Dieu veut vous donner d'être totalement dans sa lumière. Même si les moqueries viennent, si les choses mauvaises vous sont dites, des moqueries, des calomnies, tout ce qu'on veut, qu'importe, vous avez marché avec Dieu. Et Dieu vous donne la capacité de vaincre et de convaincre aussi ceux qui sont opposés à lui. Ce matin, ne soyez pas dans ce désarroi intérieur. Soyez ceux et celles qui veulent être en pleine lumière pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin le psaume 52. C'est un psaume très particulier. Un psaume de David. Dans lequel il crie déjà sa colère par rapport à un homme qui l'a trompé, qui l'a trahi. Et aussi à nous proclamer ce qu'il est vraiment pour Dieu. Et ça va un peu dans le sens de mon introduction tout de suite à travers cette lumière et cette ombre. On va le lire ensemble. Le psaume 52. Il y a l'introduction qui est donnée ici, au niveau de ce psaume, qui dit ceci. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir effilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte. Ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, dit David, Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Un contraste étonnant entre le début de ce psaume et la finalité. Il parle de cet homme qui l'a trahi. Il parle de cet homme qui a dénoncé que David était dans la maison d'Achimélèque, le sacrificateur, et qu'il avait osé prendre du pain consacré, et qu'il était parti avec l'épée de Goliath. Saül poursuivait depuis des années, on peut dire déjà, commençait déjà à poursuivre David, parce qu'il savait que David allait prendre la suite, qu'il avait été oint comme roi en Israël, alors que Saül, lui qui était le roi oint également, avait désobéi, avait outrepassé ses droits. Et Saul le poursuivait sans cesse. Il y a un passage qui dit, quand quelqu'un a dénoncé David, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir parce que tu as dénoncé David, afin que je puisse attraper. Osez dire, Dieu te bénira quand la méchanceté règne. Saül était animé d'un mauvais esprit, était animé d'un esprit méchant, et il voulait à tout prix détruire David. Tous les moyens étaient bons. David a fui pendant des années, pendant de nombreuses années. On peut dire pendant peut-être 15 ans. Rendez-vous compte. Fuite. Poursuivi sans cesse. Le monde peut nous poursuivre, frères et sœurs. Le monde peut nous poursuivre de ses malédictions, de ses mauvaises paroles, de ses mauvaises pensées. C'est vrai que vous avez à le fuir, ces gens-là, à ne pas rester dans leur contact. Mais ils cherchent à vous détruire. Ils cherchent à vous détruire. Mais Dieu nous protège. Dieu veille sur nous. Dieu donne met sa protection sur nos vies parce que nous voulons le servir et l'honorer, lui. Et non pas se laisser compromettre par les choses du monde. David aurait pu perdre sa vie. Et David aurait pu détruire la vie de Saül. Il est même rentré dans la caverne, il a pris un vêtement. Il est ressorti, et après il a crié. En disant, si j'avais voulu, tu serais mort. Mais je ne veux pas toucher à loin de l'Éternel. C'était un comble. Loin de l'Éternel. Est-ce que l'onction reste toujours sur celui qui est le méchant? Dieu est souverain, n'est-ce pas? Des gens peuvent nous poursuivre, les uns les autres, parce qu'ils ont des convictions religieuses, parce qu'ils ont des certitudes aussi, eux, religieuses, et que nous avons des certitudes qui les dérangent. Mais sachez, frères et sœurs, que si nous marchons à la lumière de Dieu, en conformité à sa parole, Dieu nous garde. Et je voudrais insister sur les derniers versets, le verset 10. Je pense que ce verset, d'ailleurs, je l'ai donné à quelqu'un qui a été baptisé il y a quelques temps. Hein? Il y a un qui lève la main. Voilà. C'est bien qui est-ce? Qui dit ceci, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Un olivier. On voit partout maintenant des oliviers, n'est-ce pas? On en voit dans toutes les jardineries, dans des bassines, des bacs énormes, avec des troncs énormes. On en voit même parfois à des ronds-points en ville, hein, avec des oliviers qui sont là. L'olivier est monté jusqu'à chez nous. Et vous voyez comment est son tronc? Parfois il est massif, court, tordu. Il n'est pas beau, hein? C'est pas un bel arbre. Quand on voit un cèdre du Liban, un beau cèdre, c'est magnifique comme arbre. Quand on voit un érable rouge, flamboyant, c'est merveilleux. Quand on voit, il y a des arbres qui sont extrêmement beaux. L'olivier n'est pas un arbre qui est beau. Il est tordu. Mais l'olivier est un symbole. C'est le symbole d'Israël et du peuple de Dieu. L'olivier a quelque chose de particulier. C'est un arbre résistant. C'est un arbre qui résiste. Il peut résister à la sécheresse. Il pousse souvent dans des terres arides. Je rappelle qu'on est allé il y a quelques années à l'île de Crète. On a vu partout des oliveraies. Il y en avait partout, partout, partout. Ou des olivets. Je ne sais pas si on dit oliveraies, olivets. On dit les deux. Richesse du pays. Pour le juif, l'olivier était aussi une richesse. Une richesse. Oh. Maman est là, voilà. Une richesse pour le peuple de Dieu. Une richesse dans la maison de Dieu. Et c'est une affirmation que dit ici David. Je suis. Je suis. C'est pas je serai. Il se pourrait que. C'est une certitude. Et que tout chrétien doit avoir lui aussi. Je suis moi-même un olivier verdoyant. Notre traduction dit aussi un olivier fleurissant, portant du fruit. On a parlé dimanche dernier, à travers le message que Daniel nous a apporté sur le vrai cep et le sarment, que nous avons apporté du fruit. Je regardais chez nous, il y a la vigne, on l'a bien taillée la vigne. Hein. Cette treille qui est sur le mur, et on voit, on a commencé aussi avec les deux yeux, hein, quasiment. Hein. On écoute. Mais on l'a fait avant que tu parles, hein. On a fait ça au mois de janvier, on a taillé la vigne au moment favorable aussi. Et on a maintenant, on va commencer à voir les fleurs venir. Les premières feuilles, une première feuille, puis ensuite la tige va monter, puis on va voir les fleurs. Les fleurs, ça va être le futur, la future grappe qui va porter du fruit. Comme l'olivier, il y aura des fleurs, et ces fleurs vont normalement donner du fruit. C'est un arbre particulier, oui. Tout un symbole pour nous ici, comme pour aussi, rappelons-nous, Israël. Et il y a dans l'Épître aux Romains, Paul a dit quelque chose d'important. On pourrait peut-être le lire ensemble, le chapitre 11. À partir du verset 16. Aussi les prémices, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais l'olivier sauvage, tu as été, on dit, hanté ou greffé, à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. On parle ici de l'olivier franc et l'olivier sauvage. Nous avons été greffés sur l'olivier franc. Mais c'est contre nature. Est-ce que vous avez vu un arboriculteur greffer sur un cerisier une branche de merisier, cerisier sauvage? D'un côté, vous aurez des très belles cerises, et de l'autre, vous aurez des trucs ridicules, avec des gros noyaux et presque pas de chair autour. Il est fou ou quoi, cet arboriculteur, d'avoir greffé une branche sauvage sur un bon arbre qui porte du bon fruit, on va lui faire porter du mauvais fruit. Dieu est capable de tout. Il est capable de transformer ce qui est sauvage en quelque chose de bon. La sauvagerie peut être transformée en quelque chose de merveilleux, de sage, de modéré, de... Dieu fait des transformations dans nos vies. Il nous greffe sur l'olivier franc. Il fait de nous un olivier franc. On va porter les mêmes fruits que la branche d'à côté, qui était la branche initiale. Cela m'a fait réfléchir sur nos conditions à tous ici. Voilà ça. On peut se dire parfois, Dieu m'a fait ainsi, Dieu m'a fait ainsi, il ne m'a pas changé. Je suis toujours le même homme. J'ai toujours les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, les mêmes... Oui, vous devez m'accepter comme je suis. Vous n'entendez pas ça souvent? Il y a des femmes qui disent, ben, je suis comme ça, hein. Je me mets en colère, et puis après je vous demande pardon, ben ça va. Hein. Je suis comme ça. Supportez-moi, oui. Supportez-moi. Vous me supportez? Quand j'étais dans mes témoignages, souvent j'ai été quelqu'un de très impatient. Dieu m'a donné un peu de patience. J'espère que vous êtes patient avec moi aussi. Hein. Sauvage. Brutal. Mais changez. Changez. Si vous avez encore dans votre cœur cette pensée que Dieu n'a rien fait, n'a fait aucune œuvre dans votre vie, ça pose question. Est-ce que vous avez donné votre vie? Est-ce que vous avez abandonné votre vie? Avez-vous été coupé de votre olivier, arbre sauvage, pour être greffé sur l'olivier saint? Ou êtes-vous toujours une branche qui se balade d'un endroit à l'autre? Ce n'est pas possible. On ne peut pas être un jour sur la partie sauvage et un autre jour sur la partie sainte. C'est pour ça que David dit, je suis un olivier verdoyant dans la maison de mon Dieu. Un arbre qui va porter du bon fruit. Le fruit que Dieu veut. Mais une chose importante quand même, dans la nature de l'olivier, si on le néglige, si on le soigne plus ou moins bien, si on l'abandonne, il redevient sauvage. L'olivier devient sauvage. C'est pourtant un bel olivier, qui a beau dire qu'il a été greffé et tout ce qu'il faut avec les meilleurs fruits. Et si on l'abandonne pendant quelques temps, quelques années, alors, il redevient sauvage. Les fruits ne sont plus aussi gros, les fruits deviennent tout petits. Il faut de nouveau le greffer. Coupez tout. Supprimez toutes les branches. Et greffez. Là, l'olivier franc, il faut qu'il soit greffé. Pas l'olivier sauvage. Prendre soin de l'olivier. Bon, on sait très bien, il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Hein? C'est Dieu. C'est l'Éternel qui prend soin de nos vies. Mais il est dit aussi qu'il y a besoin de jardiniers quand même. Il y a besoin de cultivateurs, de gens qui connaissent un peu ce que c'est qu'un olivier et qui en prennent soin et qui travaillent autour, qui enlèvent les mauvaises herbes, qui enlèvent peut-être les parasites qui peuvent s'installer dans... sur l'olivier et le détruire. C'est qui ça? C'est nous. Nous devons prendre soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12. Dans ce chapitre, il est parlé de tous les dons, de tout le... tous les membres du corps. Oh, c'est des bonnes choses, des choses excellentes que nous voulons vivre, les dons spirituels. Mais il y a quelque chose d'important qui est nécessaire pour que cela puisse se manifester au milieu de nous. Verset 22. Parce qu'avant, il dit la main n'a pas besoin de l'œil, le pied n'a pas besoin du bras. On peut se débrouiller si tout le monde était un œil ou tout le monde était un bras. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Hein. Vous voyez des pieds qui se baladent? Oui. Mais à part ça, au moindre obstacle, ils vont se faire du mal. Hein. Pas d'œil. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. On se rend compte que parfois nous sommes négligents, frères et sœurs. Moi le premier. On oublie souvent qu'il y a des personnes qui ont des besoins, vraiment. Mais souvent, on pense que les autres s'en occupent. Et, en fait, si tout le monde dit la même chose, cette personne se retrouve isolée, sans aucun soin, sans aucune attention, sans aucun regard, sans aucune parole. Je crois qu'il est important, frères et sœurs, que nous puissions, oui, nous aimer les uns les autres, mais surtout prendre soin les uns des autres. La souffrance, c'est quelque chose qui est dans le monde aujourd'hui et qui est aussi dans l'Église. Si des gens souffrent au milieu de nous, bon, certains vont le dire tout haut, tout de suite. D'autres vont le cacher. On disait, ça va, oui, ça va. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas François, il est François, hein? François dit souvent dans sa prière, au moins ça va, au moins quand on parle avec lui, il dit, bah oui, par la grâce de Dieu, tout va bien, mais je pense que tout va bien. Mais tout le monde, pour tout le monde, ce n'est pas vrai. On cache souvent nos souffrances, nos désarrois, nos faiblesses sous une apparence, sous un masque. Dieu veut qu'on enlève les masques. Et qu'on soit vrai. Comme tout olivier qui a besoin de soins, lui, il ne peut pas parler, mais c'est visible. Hein. On voit ce qu'il peut avoir comme blessure sur son tronc, des parasites qui sont dans ses feuilles, ses branches. Ça se voit. Soyons attentifs, frères et sœurs. Non pas introspectif de trop, voulant à tout prix voir chez les autres s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est aussi une tentation. N'oublions pas la paille et la poutre. Mais Dieu veut que nous regardions les choses avec le regard de Dieu, les uns et les autres, et être toujours attentifs à leurs besoins. Besoin de soins, sinon pas d'huile, pas d'olive, pas d'huile. L'olive, pour Israël, c'était aussi le symbole de la prospérité. Posséder donc une olivraie, c'est être riche. Parce qu'il y a, il y a des ressources qui sont sûres. Mais l'olive, pour qu'elle donne de l'huile, il faut qu'elle soit pressée. Je ne dis pas pressée et rapide, je veux dire pressée et écrasée, broyée, mise au pressoir. Êtes-vous prêt à passer au pressoir ? À ce que le meilleur de vous-même ressorte, mêlé à des impuretés, mêlé à toutes sortes d'impuretés qui sortent en somme de ce que vous êtes. Mais pressé pour donner à Dieu, au Seigneur, une huile agréable qui apporte un parfum. L'huile, c'est aussi l'image du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Du Saint-Esprit, image d'une onction sur nos vies, répandue sur nos vies. Une onction que Dieu veut mettre sur chacune de nos vies, petits et grands. Tout à l'heure, on voyait que on parlait des membres qui sont les moins honorés, les plus simples, les plus faibles, sont d'autant plus honorés. Une onction répandue autour de nous. Que répandons-nous ? Est-ce que c'est l'huile vraiment de l'arbre franc ? L'huile de l'olive qui est goûteuse, agréable ? Ou celle de l'olivier sauvage qui est d'une amertume terrible ? Saint-Esprit en nous. Le bon esprit de Dieu au milieu de nous. Répandu sur nous et autour de nous. Paul disait aux Corinthiens, c'est encore un 3.16, vous en connaissez des 3.16, hein ? Jean 3.16, etc. De Timothée 3.16, etc., etc. 1 Corinthiens 3.16 dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, qu'il habite en vous. Est-ce que nous portons le fruit de l'Esprit ? On parlait tout à l'heure des dons, oh, c'est très beau les dons. C'est magnifique de vivre les dons spirituels, mais avec aussi cet élément important du fruit de l'Esprit qu'est l'amour. On regarde dans Galates, chapitre 5, verset 22. On a parlé déjà dimanche dernier, mais c'est bon de rappeler et de redire les choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Don, l'esprit qui donne du fruit. Et le fruit de l'esprit, véritablement. Quand on regarde tous ces mots qui sont là, l'amour, la joie, la paix, la patience. Est-ce que vous pouvez pointer déjà dans votre Bible le fruit de l'esprit que vous manifestez ? Vous ? Pas l'autre ? Vous ? Est-ce que vous pouvez les pointer déjà ? Et les faire remarquer pour vous-même, est-ce que je progresse ou bien je régresse ? Ou est-ce que ces choses qui sont là sont encore dans notre vie ou bien disparaissent ? Ne regardez pas l'autre. Soi-même. Soi-même. Est-ce que je suis prêt à aimer celui qui me veut du mal ? Est-ce que aimer ce qu'on aime, c'est pas difficile ça. Aimer ce qui nous aime, pas dur du tout. mais aimer ceux qui nous sont désagréables, ceux qui nous sont pénibles. Il y en a, hein ? Vous en connaissez ? Quand est-ce que le Seigneur va les changer ? C'est pas possible. Mais moi, si je ne les supporte pas, peut-être normal qu'eux ne me supportent pas. Hein ? Il y a la réciprocité, hein, action-réaction, j'y dis souvent. Si les personnes que vous croisez, ou vous évitez plutôt de croiser, il y a une raison. Lui aussi, peut-être, il y a une raison de vous éviter. Le fruit de l'Esprit en nous, puissamment présent en nous. Et nous verrons à travers cela comment Dieu agit avec nous afin d'amener à Christ d'autres personnes. Être ces témoins que Dieu veut aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le patois de Canaan avec le mot du Seigneur à la bouche à chaque instant. Ce qui est important, c'est d'être celui qui est le porteur de la présence du Saint-Esprit en nous. Pas besoin toujours de dire des mots, mais de le vivre. L'apôtre Jean disait à Gaïus, dans la troisième épître, il disait ceci, « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » L'état de ton âme. Si notre âme prospère, si notre âme est joyeuse, notre âme est heureuse, épanouie, contente de l'état dans lequel il se trouve, mais cela se rejaillit sur tout le reste. On ne peut pas être dans l'Église d'une telle manière et dans le monde d'une autre manière. On ne peut pas avoir un visage dans l'Église, des paroles dans l'Église, et dans le monde, parler comme le monde. Parce que là, où est notre prospérité spirituelle ? Mécontentement, amertume, toutes ces choses doivent disparaître de nos vies, frères et sœurs. Même si les situations sont difficiles. Vous dire, oui, c'est facile pour toi de le dire, bon, oui. Tu n'as plus besoin de travailler maintenant, tu es en retraite, hein, ça va ? Oui ? Mais des fois, la retraite aussi. Hein. Je me rappelle toujours quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années, bon, je savais ce que j'allais faire. Je le faisais déjà, bon. Mais j'ai un collègue, lui, quitter son travail, c'était pour lui un gouffre. Il ne savait plus que faire. Quitte peut-être à revenir tous les jours au lycée pour revoir les collègues, quoi. Hein. J'avais connu comme ça qu'ils ont pris leur retraite en septembre. Et puis, des premiers mois, mais ils avaient toujours tendance à reprendre leur voiture pour revenir au boulot. Ils le faisaient, hein. Et puis ils allaient jusqu'à l'établissement et ils allaient faire un petit tour à la salle des profs. Et puis ensuite, ils repartaient. Ils avaient fait leur petite journée. Mais ils étaient complètement perdus parce qu'ils n'avaient plus de but dans la vie. Jeunes et moins jeunes, ayons un but dans la vie. Et le but que nous avons, c'est d'être cet olivier verdoyant dans la maison de notre Dieu. De pouvoir le servir et l'honorer à tout moment. N'importe où nous soyons. Et si nous sommes cet olivier verdoyant, la gratitude à l'égard de notre Dieu doit se manifester. Hein, que dit David dans ce psaume 52 ? Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je me confie dans la bonté de Dieu. Quoi qu'il m'arrive. Puis j'arrive à lever les bras. Pourtant, j'ai eu une arthrose là, dans l'épaule. Ah là 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 là. Qui me fait souffrir. Mais qu'importe. Je suis heureux de vivre ce que Dieu me fait vivre. La bonté de Dieu est pour moi. Bon, je pousse un petit cri de temps en temps. Mais qu'importe. Mais si c'est un cri de joie, hein, ce serait mieux. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Est-ce que nous le voyons agir dans notre vie et autour de nous? Voyons-nous les résultats de l'action de Dieu? Le bonheur? Qu'est-ce qu'ils ont comme chance, ces gens-là? Ils sont toujours heureux. Et puis moi, je galère. J'aspire à des choses et je ne les reçois pas. Mais es-tu patient? Es-tu prêt à attendre que Dieu donne ou bien tu veux exiger de Dieu quelque chose? Non? La joie, le bonheur, le rassasiement, la protection, la certitude que Dieu est vivant, il est présent, qu'il agit, qu'il est puissant, qu'il nous donne même une espérance qui va jusque dans la vie éternelle et pas sur cette terre. David dit, tous ceux qui se confient en toi se réjouissent. Ceux qui se confient en toi sont heureux. Hein? Je donne une référence, Proverbe 16:20, lisez-le. Rassasiez. Proverbe 28, verset 26. Les proverbes, c'est formidable. Protégez. Proverbe 29, 25. Vous notez, si vous avez des notes, un cahier, vous notez, vous lisez. Vous lirez plus tard. Dieu veut nous garder les uns les autres, comme des oliviers verdoyants. Et pensez que ce matin, quelqu'un a à cœur de s'intéresser à vous. Oui, Dieu, bien sûr, mais dans l'Assemblée. Que s'il y a des besoins, les gens ont découvert que vous aviez des besoins et sont prêts à vous aider, à vous entourer. Ce n'est pas encourageant, ça. Et vous, par hasard, si vous aviez quelqu'un auquel vous n'avez pas pensé depuis un certain temps et que vous voyez un peu abattu, vous n'êtes pas prêt à donner une parole d'encouragement? Soyons attentifs les uns aux autres. Prenons soin de chacun. Afin que nous soyons tous bien verdoyants, jeunes et vieux, gardez la force physique que nous avons encore pour pouvoir encore servir et honorer, pour être ses témoins pour aujourd'hui. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble parce qu'il y a de l'avenir et de l'espérance pour chacun. Je louerai toujours mon Dieu. Et je veux espérer en sa bonté. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage tous. On va prier un instant. Merci pour ce matin, pour ce que nous avons vécu ensemble. Merci pour tout ce que tu as pu donner aux uns et aux autres de particulier. Peut-être des choses qu'ils n'auraient pas imaginées, mais que tu leur as montrées ce matin. Pensez encore à ceux qui sont entre ténèbres et lumière, entre ombre et véritable clarté. Merci de ce que tu veux de faire de nous ces oliviers verdoyants et nous donner de vivre allègrement encore une bonne vie avec toi, des années avec toi, des bonnes années avec toi. Bénis chacun de nous. Encourage-nous, Seigneur, à aller encore plus loin et encore plus loin que ce que nous avons pu voir et découvrir. Parce qu'il y a des merveilles à voir encore avec toi. Que ton nom soit béni. Amen.